Les élèves de la 503 ont préparé une émission sur les grandes découvertes. Ils ont réalisé des recherches pour vous présenter des portraits de grands navigateurs. Ces hommes ont parcouru les mers à la recherche de nouveaux itinéraires ou en quête de richesses. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons de partir à la rencontre de 6 explorateurs.
Jacques Cartier, le Français qui a découvert le Canada.
Charles Poncet de Brétigny, fondateur de la colonie de Guyane.
Christophe Colomb, le découvreur officiel de l'Amérique.
Magellan, le capitaine malheureux du tour du monde qui lui a été fatal.
Pissarro, le noble sans argent, avide de pouvoir au Pérou.
Vasco de Gama, le navigateur qui a ouvert une route vers les Indes en contournant l'Afrique.
Cortés, l'intrépide conquistador du Mexique. Notre équipe d'envoyés très spéciaux a remonté le temps pour rencontrer ces hommes ou les personnes qui les ont côtoyés afin d'en savoir un peu plus sur leur motivation et sur les conditions de leur voyage.
Commençons par un petit détour par le fleuve Saint-Laurent au Canada. C'est là que Jacques Cartier et ses hommes se sont rendus à différentes reprises.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Monsieur Jacques Cartier, un Français qui a découvert le Canada en 1534, sous le commandement de François Ier, roi de France. Le but de cette expédition est de fonder de nouvelles colonies et de ramener de l'or. Notre envoyé spécial Célia s'est rendu sur place pour interviewer Monsieur Jacques Cartier.
Bonjour, je suis en direct du Canada en compagnie de Jacques Cartier.
Bonjour.
Vous avez traversé l'Atlantique en seulement 20 jours. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre expédition?
Le plus dur n'a pas été le voyage sur l'Atlantique, car notre bateau, la Grande Hermine, a été très résistant. Mais le plus dur, c'est quand on a remonté le fleuve Saint-Laurent.
Pourquoi est-ce que ça a été si difficile?
Parce qu'on a dû remonter le fleuve alors qu'il y avait beaucoup de chutes d'eau.
Vous avez rencontré des Indiens?
Oui.
Pouvez-vous nous les décrire?
Oui, ils sont gentils. Ils vivent de chasse au caribou et de pêche au saumon. Ils sont couverts avec de la peau de bête et portent des plumes sur la tête. Ils habitent dans des huttes faites aussi en peau de bête.
Vous étiez parti pour amener de l'or. En avez-vous trouvé?
Oui, mais en petite quantité. Le continent est immense et j'espère finir par trouver le plus de richesses.
Quittons les eaux froides et le vent glacial du Grand Nord pour rejoindre Charles Poncet de Brétigny en Guyane. Vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas très sympathique.
Charles Poncet de Brétigny est le premier homme à s'installer en Guyane en 1643, 10 ans après que Christophe Colomb se soit approché de ses côtes guyanaises. Ce Français était le premier homme à chercher à s'installer pour faire du commerce. Charles Poncet de Brétigny était très sévère avec ses hommes. Il y eut donc des révoltes, car il n'avait rien à manger, il avait peur de la forêt et d'être empoisonné par les Indiens Galibis. Notre envoyé spécial a rencontré pour vous un soldat de Charles de Brétigny qui a survécu à l'aventure. Écoutons-les.
Je peux vous poser quelques questions?
Oui, bien sûr.
Pouvez-vous nous expliquer comment Charles Poncet de Brétigny s'est comporté avec vous?
Il était sévère avec les Indiens Galibis et aussi avec nous. Il nous privait de manger. Pour nous punir, il nous enfermait. Il nous traitait comme des esclaves.
Où vous êtes-vous installé en arrivant en Guyane?
Nous nous sommes installés sur une colline qui s'appelait le Sepérou, où vivaient les Indiens Galibis.
Comment les Indiens Galibis ont réagi quand vous êtes arrivés en Guyane?
Au début, ils nous ont bien accueillis. Mais comme mon chef était trop sévère avec eux, ils se sont révoltés et ils l'ont tué avec une flèche.
Je remercie le soldat qui a survécu pour avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt.
Notre explorateur suivant a longé les côtes de Guyane en 1498, mais il ne s'y est pas arrêté. Il s'agit de Christophe Colomb, bien sûr. Un excellent marin ce Colomb, mais nul en géographie. Il était persuadé d'être arrivé aux Indes.
Bonjour, chers auditeurs, ici vos présentateurs Olivier, Fabien et Mathis. Nous allons vous présenter Christophe Colomb. Il est né en 1451 et il avait 41 ans quand il a découvert l'Amérique en 1492. Il est allé vers l'ouest pour essayer de trouver une nouvelle route maritime vers les Indes. Il a consacré sa vie à cette recherche. Nous avons envoyé Mathéus qui est sur le point de poser des questions à l'explorateur le plus célèbre du monde.
Bonjour Monsieur Christophe Colomb.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous décidé de partir vers l'ouest?
C'était pour trouver une nouvelle route maritime et pour prouver qu'on pouvait aller en Asie en passant par l'ouest, car la terre était bien ronde et non plate.
Est-ce que ça a été difficile d'organiser le voyage?
Oui, car il m'a fallu 7 ans pour attendre les financements de l'autorisation des rois Ferdinand et Isabelle d'Espagne.
Est-ce qu'à un moment, votre équipage a eu peur et envie de revenir, de faire demi-tour?
Oui, mais je leur ai dit qu'ils devaient avoir la foi.
Et avez-vous eu peur, vous aussi?
Non, moi j'avais soif d'aventure. Mais à un moment, l'équipage a eu faim et a commencé à s'énerver. Et tout à coup, nous avons vu une terre et nous nous sommes dit qu'on était enfin arrivés.
Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là?
J'étais très heureux. Nous avons pleuré de joie. Ça nous avait pris 3 mois de navigation sur mer et 7 ans pour l'organisation du voyage. Après avoir débarqué sur l'île d'Espagnola, je me suis mis à genoux. Puis j'ai vu la population indienne et je me suis dit, nous y sommes arrivés.
Très bien, nous avons fini. Merci beaucoup.
Merci à notre envoyé spécial et à Christophe Colomb pour avoir répondu à nos questions.
Embarquons à présent dans un des navires de Magellan pour l'accompagner dans son projet de tour du monde. Un projet courageux, mais très dangereux, comme vous allez le constater.
Bonjour, aujourd'hui sur votre radio préférée, nous allons parler d'un grand explorateur, Fernand de Magellan, qui est très connu pour être le premier homme à avoir presque fait le tour du monde en bateau. Il a commencé à voyager en 1519. L'équipage de Magellan est rentré en 1521 après la mort de celui-ci. Notre envoyé spécial, Taïna, s'est rendu sur place, à Séville, pour recueillir les réactions de Elcano, le nouveau capitaine du bateau depuis la mort de Magellan.
Décrivez-nous les paysages que vous avez vus.
Il y avait des glaciers, du brouillard, il faisait sombre partout. On ne voyait plus rien et on avait peur et faim. On avait l'impression qu'on allait mourir à cause des rochers qu'il y avait dans l'eau et que on ne voyait pas.
Comment s'est passé le voyage?
Le voyage était terrible. On avait faim, on avait froid, on avait peur. Il y avait des éclairs et du tonnerre. Nous avons vu des glaciers s'écouler et des pingouins qui envahissaient la mer, ce qui faisait ralentir le bateau. Plusieurs fois, on avait la tête qui tournait.
Comment est mort votre capitaine Magellan?
Nous avions rencontré des sauvages des Philippines. Ils avaient vu que nous étions pas beaucoup. Alors ils nous ont attaqués et Magellan a été tué. Le bateau a continué le voyage avec les survivants. Nous sommes rentrés à seulement 18 hommes.
Merci à Taïna et à Elcano pour cette interview.
Retournons en Amérique du Sud, sur les traces de Pizarro, le célèbre conquistador du Pérou. Comment une poignée d'Espagnols a pu anéantir l'Empire Inca en si peu de temps? C'est ce que nous allons voir avec le portrait suivant.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Monsieur Pizarro. Il est connu parce qu'il a conquis le Pérou entre 1530 et 1533. C'est un explorateur espagnol. Il a été envoyé par le roi d'Espagne. Nous allons nous rendre à Cusco pour interroger Francisco Pizarro.
Quels moyens matériels avez-vous utilisé pour conquérir le Pérou, monsieur?
Je suis parti avec 180 hommes et 27 chevaux et 200 à fou.
Comment avez-vous conquis l'Empire Inca?
J'ai rencontré les deux frères ennemis Atahualpa et Guascal, qui se sont disputés pour le titre impérial Inca. J'ai profité de la guerre pour arrêter l'empereur Atahualpa. Ensuite, j'ai fait décapiter l'empereur.
Est-ce que votre voyage a été difficile, monsieur?
Oui, très très difficile. J'ai beaucoup marché et j'avais traversé de très hautes montagnes pour aller à Cusco.
Merci à notre envoyé spécial Ismaël et à Pissarro pour avoir répondu à nos questions.
Pour terminer, je vous propose de contourner l'Afrique avec Vasco de Gama. Avec un peu de chance, vous arriverez en Inde en empruntant une toute nouvelle route maritime.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Monsieur Vasco de Gama. C'est un navigateur portugais. Il a fait de nombreux voyages. Il est connu pour avoir contourné l'Afrique en partant de Lisbonne pour aller à Calicut, c'est un port en Inde. Il part le 9 juillet 1497 et il atteint l'Inde en mai 1498. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Diogénie qui est en Inde pour poser des questions à Monsieur Vasco de Gama avant son retour en Europe.
Bonjour, comme vous le savez, je suis l'envoyé spécial. Monsieur Vasco de Gama, voulez-vous répondre à quelques de mes questions?
Bien sûr.
Pourquoi avez-vous décidé de faire ce voyage?
Je l'ai fait pour des raisons économiques. Je voulais trouver des épices et des pierres précieuses pour emmener au Portugal. J'ai voyagé pour le roi Manuel Ier.
Avec combien d'hommes êtes-vous parti?
Je suis parti avec 160 hommes et 4 bateaux.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de ce voyage?
Eh bien, mon équipage n'a pas bien été reçu en Afrique à cause de notre religion chrétienne. En plus, certains de mes hommes sont morts au scorbut, une maladie qui provoque des vomissements, la perte des dents et finalement la mort.
Combien de temps avez-vous mis pour faire ce voyage jusqu'à Calicut?
Ce voyage a été très long. Nous avons mis 10 mois pour faire ce voyage. Nous avons même été arrêtés à Calicut quelques heures parce que des marchands arabes ont fait croire aux autorités que je venais faire du pillage avec mes hommes.
Rémission sur les explorateurs de grandes découvertes se termine. Un grand merci aux journalistes de la 503 qui se sont investis dans leur recherche et dans l'écriture pour vous proposer ces portraits radiophoniques.